Les chroniques du patrimoine sur Demoiselle, avec l'âtre royanné Jotul Vaux-sur-Mer, spécialiste des poêles et cheminées scandinaves. Olivier Marvaux.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous filons à quelques encablures de la pointe du Chaput, sur la commune de Bourcefranc-le-Chaput, à la découverte, pour ne pas dire à la conquête, de Fort Louvois. Fort Louvois est bâti sur un socle rocheux, sur le courreau d'Oléron, le passage maritime qui sépare le sud-est de l'île d'Oléron du continent, à 3,5 km de la citadelle du château d'Oléron. Appelé par certains petits frères de Fort Boyard, alors qu'il est en fait son glorieux aîné, Fort Louvois ne bénéficie pas, ou pas encore, de la notoriété de Fort Boyard. Et pourtant, il n'a rien à envier aux autres ouvrages qui constituent le système défensif du littoral atlantique, comme Fort Hennette ou encore Fort Vauban à Fourat. Fort Louvois, de dimension humaine, est d'une élégance et d'un charme incomparables. Mais commençons par les éléments historiques. C'est d'abord une préconisation d'un ingénieur nommé La Favolière, qui imagine ici un petit ouvrage avec une batterie à fleurs d'eau. Puis le marquis de Louvois entre en scène, secrétaire d'État à la guerre de Louis XIV, mais également son principal ministre d'État. Et Louvois ordonne à l'intendant de la marine de Rochefort, Michel Bégon, de construire un fort sur la pointe du Chaput. On disait alors le Chapus, en Oléron. L'enjeu est évidemment stratégique. Il s'agit de verrouiller l'accès sud à l'embouchure de la Charente pour protéger l'arsenal de Rochefort, construit en 1666. Et pour cela, de pouvoir croiser les tirs de canon avec ceux de la citadelle du château d'Oléron. L'élaboration des plans du futur Fort Louvois est confiée à un ingénieur du roi, François Ferry, directeur des fortifications pour les provinces du Poitou, de l'Aunis, de la Saintonge, de la Guyenne et du Béarn. Proche de Colbert, lui-même disparu en 1683, Ferry dessine les plans d'un ouvrage défensif de forme ovale, ambitieux, avec notamment deux batteries de canons situées sur deux niveaux. Mais la mort de Louvois en 1691 redistribue les cartes, et c'est un certain Vauban qui entre alors dans la danse. Si le génie de l'ingénieur et architecte militaire est incontestable, Vauban avait aussi un certain ego, mais content d'avoir été écarté du projet, il reprend la main et les plans de François Ferry pour les transformer, imposant son contre-projet en forme de fer à cheval. C'est la forme qui sera finalement retenue. Fort Louvois constitue le dernier ouvrage de fortification maritime commandé sous le règne de Louis XIV. Ses travaux vont commencer en 1691 et s'achever en 1694. Un véritable défi dans cette zone soumise aux caprices des marées et des courants. Environ 150 paysans seront réquisitionnés pour travailler jour et nuit à sa construction. La visite de Fort Louvois, d'avril à début novembre, est une belle aventure, mais une aventure à la portée de tous. Selon les horaires et les coefficients de marée, on arrive à pied en empruntant une chaussée pavée submersible, longue de 400 mètres environ, depuis le port de Bourcefranc, ou bien en bateau, sur un chaland, ces embarcations à fond plat des ostréiculteurs. Votre capitaine se prénomme Jean-Pierre, c'est lui, avec sa bonne humeur, qui vous emmènera jusqu'à Fort Louvois. Une croisière de courte durée qui vous permettra de profiter de la carte postale alentour, d'apprécier le ballet des chalutiers des chalands dans le courreau d'Oléron. Et c'est donc aussi le début de l'aventure. À l'arrivée, quelques marches et vous accédez au pont-levis. Ce pont-levis qui s'est rendu célèbre à l'automne 2023, emporté par une tempête, retrouvé fort heureusement quelques jours plus tard sur une plage, par une habitante de Saint-Froux. Depuis, il a retrouvé sa place au soulagement général. Mais entrons sans plus tarder dans l'enceinte du fort. Sur la droite se trouve l'ancien corps de garde permettant de contrôler l'accès au fort, qui fait aujourd'hui office d'accueil pour le public. Puis nous débouchons sur la place d'armes. Face à nous, la caserne, le principal lieu de vie du fort, bâti sur deux niveaux et composé de 6 pièces, toutes se visitent. Au centre, la halle aux vivres avec sa citerne d'eau. De part et d'autre se trouvent les deux cantines. Des scénographies ont été installées dans ces pièces qui permettent de s'imaginer la vie à l'intérieur du fort au temps des rois. Notamment une scène de repas avec des sons plus vrais que nature. Dans l'une des deux cantines de la caserne, les visiteurs, jeunes ou moins jeunes, pourront même se déguiser pour mieux voyager dans le temps. Sur le flanc gauche de la place d'armes, à l'opposé du corps de garde, se trouve une poudrière. On y découvre le moule du blason royal réalisé par les Monuments historiques. Ce blason qui orne la façade du donjon du fort. Sur ce blason figurent les symboles de la religion catholique, du pouvoir militaire et bien sûr de la royauté. En montant sur le terre-plein dominant la place d'armes, On accède à l'étage de la caserne et on prend toute la mesure de l'architecture singulière de Fort Louvois et de sa forme en fer à cheval, dont la première batterie d'artillerie épouse toute la courbe. Située à 12 mètres de hauteur, cette batterie comptait à l'origine 16 embrasures à canon, des canons de 24 livres. Les progrès réalisés pour la puissance des armements permettront en 1720 de réduire le nombre des embrasures à 10. Cette batterie d'artillerie permettait d'effectuer des tirs sur 180 degrés. À l'étage de la caserne, accessible par le terre-plein, on découvre un arsenal pour stocker les munitions et les logements des soldats. On remarque notamment le fameux chalit, un lit fortement incliné pour permettre aux soldats de garde de se lever très rapidement en cas d'alerte. Et puis le clou de la visite, c'est le magnifique donjon de Fort Louvois, qui culmine à 24 mètres. Ce donjon, protégé par un fossé en eau de mer, est accessible lui aussi par un petit pont-levis. Il s'élève sur 5 niveaux, dont un niveau dit aveugle qui en constitue le soubassement. Puis c'est le rez-de-chaussée à proprement parler, avec 9 meurtrières permettant des tirs rasants. Au premier et deuxième étage du donjon, on retrouve le même agencement. Ces deux niveaux, voûtés en coupole, sont composés d'une chambre et d'une pièce à vivre et disposent d'une cheminée. Le premier étage du donjon était dédié aux appartements des officiers, le deuxième étage à l'appartement du commandant du fort. En haut du donjon, on retrouve l'air libre sur le toit en terrasse qui arbore créneaux et autres mâchicoulis, et on découvre la batterie d'artillerie haute qui permettait de viser directement les mâts des bateaux en cas d'attaque ennemie. Notons que la cage de l'escalier en vis est surmontée d'une élégante tourelle octogonale, elle-même surmontée d'un clocheton qui sert d'amer pour les navigateurs évoluant entre l'île d'Oléron et le continent. Du sommet du donjon, récompense au bout de l'effort, le visiteur profite d'une vue imprenable sur l'île d'Oléron, toute proche, plus loin sur l'île d'Aix, Fort Boyard ou encore Fort Hennette. On distingue aussi les restes de l'ancien embarcadère et le pont d'Oléron, inauguré en 1966. Sous la Révolution, Fort Louvois va perdre sa fonction stratégique. Mais l'empereur Napoléon Ier ordonnera son réarmement en 1811. L'enjeu est de pouvoir tirer sur les frégates anglaises en cas d'attaque par le pertuis de Maumusson. À partir de 1900, le fort est loué à un ostréiculteur. Puis il est remis au domaine dans les années 20, classé monument historique en 1929. En 1944, un poste des FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur, est installé de façon éphémère à Fort Louvois, suite à la libération de Marennes. En septembre de la même année, 200 coups de canon sont tirés par l'occupant allemand sur Fort Louvois, depuis la citadelle du château d'Oléron. Le fort sera en grande partie détruit. À partir du début des années 50, Fort Louvois fera l'objet d'un important programme de restauration, conduit par le ministère des Beaux-Arts. 2 décennies de travaux pour permettre à l'édifice de retrouver toute sa splendeur. Il est aujourd'hui la propriété de la commune de Bourg-Franc-le-Chaput. À Fort Louvois, on a le sens de l'accueil, mais aussi de la mise en scène, car de nombreux événements sont organisés au fil de la saison sur le site, notamment un bivouac militaire, des repas historiques, des concerts, des visites théâtralisées animées par l'association Fort Louvois. De retour sur le continent, à la pointe du Chaput, on remarque l'ancienne gare ferroviaire, et nous sommes saisis par un brin de nostalgie. Car de 1889 jusqu'au début des années 70, 2 trains directs arrivaient quotidiennement ici, en provenance de la gare de Paris-Austerlitz, dont un train de nuit. Les voyageurs pouvaient prendre leur petit déjeuner au restaurant Le Terminus, animé pendant des décennies par une figure locale de Bourg-Franc, que l'on appelait la Grande Léone, avant de rejoindre l'embarcadère et de prendre le bac pour poursuivre le voyage en direction de l'île d'Oléron. En passant bien sûr tout près de Fort Louvois, ce fort majestueux, pour ne pas dire magique, véritable perle du patrimoine de la Charente-Maritime. Belle journée à tous.
C'était les Chroniques du patrimoine sur Demoiselle avec Lattre Royan et Jotul Vaussurmer, spécialiste des poêles et cheminées scandinaves. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.